Radio Capi. Oh, Capi. Journal présenté par Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, la Commission électorale nationale indépendante publie ce vendredi 12 janvier les résultats provisoires des législatives nationales et provinciales à son siège à Kinshasa. La confirmation a été faite hier jeudi à Radio Capi par le service de communication de la centrale électorale. En Ituri, l'association culturelle à Congo, dans les territoires de Djougou, déplore l'occupation de plusieurs localités dans cette entité par les groupes armés depuis maintenant 3 ans. Les communautés Nyalikilo craignent la résurgence des exactions de ces groupes armés dont les mouvements sont observés dans la zone. L'invité de ce journal est le chef de secteur de Sakima, division Nord Maniema. Edgar Lunga s'exprime sur l'état de délabrement très avancé de la centrale hydroélectrique de Belia. Mesdames, Messieurs, bonjour. La Commission électorale nationale indépendante publie ce vendredi 12 janvier les résultats provisoires des législatives nationales et provinciales à son siège à Kinshasa. Confirmation donnée hier jeudi à Radio Capi par la centrale électorale. Toutefois, l'invitation y afférente qui circule sur les réseaux sociaux n'est pas à prendre en compte car elle n'est pas officielle, précise le service de communication de la CENI. Et puis, les gouverneurs des provinces de Kinshasa, Équateur et Mongala sont appelés à laisser leur adjoint assurer leur intérim en attendant l'organisation des élections pour les nouveaux animateurs dans leurs entités respectives. Cela pour ne pas gêner l'administration et le fonctionnement de leur province. Cette déclaration est contenue dans un message officiel du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, publié hier jeudi dans les réseaux sociaux. Cette instruction est la conséquence de la décision de la CENI sanctionnant notamment ces 3 gouverneurs pour fraude, bourrage des urnes et violence lors des élections générales du 20 décembre dernier. Face à l'agression et aux menaces de balkanisation qui pèsent sur la République démocratique du Congo, ainsi que la crise de légitimité, il y a lieu de privilégier et de préserver la paix. C'est ce qu'a déclaré hier jeudi, ici à Kinshasa, le docteur Justin Moudékéré Zabisimwa, candidat à la présidentielle de décembre 2023. C'est à l'occasion du lancement officiel et la signature de la charte du Bloc patriotique pour la paix et l'unité BPUN. Occasion pour le président du parti Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement et les cofondateurs de cette plateforme, Maître Michel Okongo, également président du parti Unité des Valeurs, d'attirer l'attention des Congolais sur ce qu'ils qualifient des risques d'implosion du pays après la débâcle électorale, mais aussi d'appeler les uns et les autres à privilégier le règlement de la crise post-électorale par la voie pacifique. Écoutez à ce sujet le professeur Justin Moudékéré Zabisimwa.
Considérant et mesurant le risque d'implosion de notre pays, nous avons pensé mettre en place une plateforme dénommée Bloc patriotique pour la paix et l'unité nationale. Cette plateforme a pour objectif global de préserver la paix, l'unité nationale ainsi que la cohésion sociale dans une période post-électorale caractérisé par des tensions multiformes. Les blocs patriotiques se lancent les défis de sensibiliser toutes les forces vives de la nation à privilégier le voie pacifique, y compris l'arbre à palabre, en vue de régler pacifiquement la crise de légitimité dont ces élections sont porteuses. Cette voie nous permettra de maintenir un climat sociopolitique de cohésion nationale, à même de faire face à l'agression et aux autres menaces de balkanisation auxquelles le pays est confronté.
Notez que plusieurs personnalités, des responsables des partis politiques et des organisations de la société civile ainsi que des mouvements des jeunes ont adhéré à ce bloc patriotique en apposant leur signature à la charte de sa création. Dans le même chapitre électoral, les élections générales de décembre dernier ne doivent pas être annulées globalement comme le souhaitent certains politiciens. Il faut plutôt sanctionner les fraudeurs, puis s'ils se sont compromis individuellement. C'est ce que pense un candidat député national de la circonscription électorale d'Arou en Ituri. Donatien Kanindia s'est exprimé ainsi hier jeudi au cours d'un entretien avec la presse. Les dispositions prises par la CENI sont à féliciter car, estime-t-il, l'infraction est individuelle. En outre, elles sont de nature à assainir la classe politique congolaise. Ces propos ont été recueillis par Jacques Moukonkolé.
Quand un individu prend ses dispositions, il met de ses moyens pour arriver à se procurer frauduleusement une machine électorale, pour arriver à intimider les électeurs ou les agents de la CENI, pour arriver à corrompre, ainsi de suite. Ça, c'est une faute. Quand on tombe sur une telle personne, c'est bien cette personne-là, bien identifiée, qui doit en subir les conséquences. Il a pris ses initiatives à sa manière et doit être responsable du risque qui en découle. Je crois que ce sont les fraudeurs et leurs complices qui défendent justement cette position comme quoi, à partir de ces preuves de fraude électorale, qu'on puisse annuler les élections dans l'ensemble. Ça, c'est de l'amalgame. Ça n'a aucun sens. Par ailleurs, je félicite le président Denis Kadima. Je félicite le chef de l'État. C'est exceptionnel ce qui est en train de se passer, qui est des ministres à fonction. Même le ministre est prêt, le président de la République est frappé. Ça, c'est quand même quelque chose. Il faut être complètement ingrat, il faut être ennemi de ce pays pour ne pas se rendre compte qu'on est là à trait de connaître un changement. C'est un message très fort qu'on est en train de passer.
À Nitouri, l'association culturelle à Congo qui regroupe les communautés Nyalekilo dans le territoire de Djougou déplore l'occupation de plusieurs localités dans son entité depuis 3 ans par les groupes armés. Dans une déclaration hier jeudi à la presse à Bounia, son président a déclaré que de nombreux habitants passent actuellement la nuit dans la brousse. Ils craignent la résurgence des exactions de ces groupes armés dont les mouvements sont observés dans la zone. Vital Tungulo demande au gouvernement provincial de renforcer l'effectif des militaires en vue de restaurer l'autorité de l'État en Ituri. Il a été joint par Ezekiel Mouzalia.
Le secteur de Banyalikilo reste toujours amputé de ces 12 groupements par les miliciens de Codeco. Ils sont en train d'exploiter de l'or juste après les élections. Il y a une menace terrible sur le centre Kilo principalement, où la population passe même nuit dans la brousse. Tout ce que nous demandons à l'armée, aux autorités militaires, de déployer suffisamment de militaires dans cette zone. Parce que nous en avions fait autrefois avant la date du 14 avril 2023 et quand les drames étaient arrivés, c'était déjà trop tard. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de plaider, de demander aux autorités militaires de déployer suffisamment de militaires dans ces coins pour protéger les vies humaines. Ce n'est pas bien que nos militaires soient déployés après les dégâts. Vraiment, c'est ça ce que nous demandons.
Au Nord Kivu, dans le territoire de Masisi, la société civile de la chefferie de Baoundé appelle les communautés locales à la cohabitation pacifique et à vivre en harmonie afin de favoriser la paix dans cette entité. Appel lancé hier jeudi par le président de cette structure citoyenne après avoir constaté un climat de méfiance entre les deux communautés Houndé et Hutu. Ceci fait suite à des mésententes entre deux factions des groupes armés locaux à Bitonga, lesquelles ont conduit à la mort d'hommes. Floribert Buolo Musanganya est au micro de Denise Lukeso.
La communauté Houndé et la communauté Hutu, et il y a des décennies vraiment, nous vivons sans problème. Nous sommes déjà mariés et nous formons déjà des familles en tant que communauté. Malheureusement, pour le moment, nous avons observé qu'il y a une méfiance qui est en train de s'installer. Et cela, c'est suite à des mésententes entre des factions de Wazalendo, notamment IPCRN et APCLS. C'est depuis le jeudi passé à Bitonga, là où il y a des événements malheureux qui se sont produits et qui ont conduit à des pertes en vies humaines. Et fort malheureusement, ça a commencé à prendre maintenant une connotation tribale. Voilà ce que nous sommes en train de dénoncer. Nous interpellons toute la population de toujours se solidariser, de toujours être soudés. Profitons de votre micro pour demander à la population de la chefferie de Baoundé, du groupement Mvunyishanga, de ne pas céder au tribalisme qui est en train d'être chanté par certains faux leaders. Et donc, les Moutou et le Moundé, nous sommes et ne devons pas vraiment nous diviser pour que l'ennemi ne puisse pas profiter de cette division-là.
Dans le Congo central, la société civile du territoire de Mwanda déplore la non-prise en compte des recommandations issues de la table ronde tripartite tenue à Mwanda entre le gouvernement, les sociétés pétrolières et la communauté il y a 3 ans. Maître Willy Iloma, son coordonnateur, indique que même la somme de 10 millions de dollars dotée à cette communauté de Mwanda par le chef de l'État pour la signature de l'avenant 09 sur l'exploitation pétrolière a pris une destination inconnue. Ces fonds devraient pourtant servir à l'électrification du territoire de Mwanda. Écoutez à ce sujet, Maître Willy Iloma, dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambou.
Le territoire de Moanda avait bénéficié de la somme de 10 millions de dollars, une dotation présidentielle suite à la signature de l'avenant 9 de l'exploitation pétrolière. La dite somme devrait servir à l'électrification du territoire de Moanda, tel que décidé par la majorité des participants à la deuxième table ronde du 21 février 2022. Le projet d'électrification du territoire de Moanda devient hyperbolique, étant donné que le comité de gestion de ces fonds ne donne aucune information claire quant à ce. La société civile du territoire de Moanda n'est pas loin de considérer cela comme une escroquerie étatique, au regard du silence observé par les autorités à tous les niveaux, car une dotation présidentielle ne peut pas être détournée. La société civile du territoire de Moanda invite le comité de gestion des fonds, CGFM en sigle, à fournir des explications claires et nettes sur la destination de la somme de 10 millions de dollars pour l'électrification du territoire de Moanda.
Contacté, Gelson Sissivimbi, un des membres du comité de gestion des fonds de Moanda, affirme que ces 10 millions de dollars sont depuis quelques mois entre les mains de ce comité, et ce, après avoir été retenu durant plusieurs mois dans les circuits du gouvernement. Il précise que la construction de cabines électriques a déjà commencé à Moanda et les commandes de fils électriques, poteaux et autres matériels électriques ont été passés à l'étranger. Pendant ce temps, certains matériels sont déjà au port de Matadi et n'attendent que les dédouanements, rassure-t-il. Dans la province du Maniema, le secrétaire exécutif de l'ONG Akiza Binadamu exhorte la population à la vigilance lors de l'attribution des parcelles par les services attitrés. Raphaël Oupélé les dénonce, ce qu'il qualifie d'insuffisance dans l'attribution anarchique des terrains par les services du cadastre, des titres immobiliers et d'urbanisme et habitat dans la ville de Kindu. Il dit s'exprimer ainsi après avoir observé ce que font les services étatiques dans l'octroi des terrains à la population, même dans les endroits inappropriés. Raphaël Oupélé Lokenga est au micro de Florence Kizalunga.
Il est vrai que beaucoup de dossiers qui s'amoncellent au greffe des tribunaux, ce sont des conflits fonciers. Mais on indexe beaucoup plus les conservateurs, c'est tout simplement parce que c'est lui qui signe. Mais le processus lui-même est collégial. Il y a trois services qui concourent, notamment le service d'urbanisme et habitat, cadastre et titre foncier. En dépit du fait que c'est le conservateur qui engage la République. Et ils acquisent, il est vrai, beaucoup de limites, beaucoup de suffisances, parce qu'ils font des attributions anarchiques et en dehors des règles, des normes, des règlements. Et ils attribuent même des parcelles dans des endroits qui ne sont pas appropriés pour construire. Et au jour d'aujourd'hui, ils ont terminé tous les cimetières en dehors des textes légaux. Alors, ils sont en train d'attribuer même dans des endroits où la SNCC avait laissé. Bon, tout ça, c'est en dehors de la réglementation. Alors, je suis en train de me dire, il y a un jour où l'État va se réveiller, eh bien, ces gens-là vont se retrouver dans une situation de sinistre, comme on a vu à Kinshasa, et puis les conservateurs ne seront plus là. C'est pour cela que je demande à la population d'être vigilante, sinon vous risquez un jour de vous voir être sinistre. On va détruire votre maison.
Retour au Nord Kivu, dans la ville de Beni, où depuis deux semaines, une carence d'eau potable est observée dans les bornes fontaines. Une situation causée par la saison sèche dans la région. Conséquence, un bidon de 20 litres d'eau qui se vendait à 100 francs se négocie actuellement à 200 francs congolais. Notre stagiaire Noëlla Kasuna a visité quelques bornes fontaines dans la ville. Voici son reportage.
Dans la commune Rwenzori, les bornes fontaines qui fonctionnent d'habitude du matin au soir sont contraintes de fonctionner uniquement les soirs. La carence d'eau due à la sécheresse est à la base de cette situation, comme le confirme Messi Fassinamoul, gérant d'une borne fontaine au quartier Mabakanga.
Le matin, j'ai vendu 5 mètres cubes, qui est l'équivalent de mon réservoir. Lorsque le réservoir se vide, c'est impossible pour moi de vendre dans la soirée, car je dois attendre qu'il se remplisse dans la nuit afin de vendre demain matin.
Conséquence, des habitants sont quelquefois obligés de faire des tours des différents quartiers de Beni à la recherche d'eau potable. Une situation qui est à la base de la hausse du prix de l'eau à la borne fontaine. Ainsi, un bidon d'eau de 20 litres qui se vendait à 100 francs est passé à 200 francs congolais, comme l'explique Jonas Mukubwa.
Nous sommes en souffrance à cause du manque d'eau. Nous arrivons dans certaines bornes fontaines fermées à cause de cela. Dans d'autres, elles autorisent à puiser que 20 bidons par jour. Au lieu des 100 francs francs. Un bidon se vend parfois à 200 et certaines personnes quittent le quartier Matongé pour Tamende et Boïkène à la recherche de l'eau.
Signalons que la population de Beni en majorité s'approvisionne en eau potable à la borne Fontaine. Beni, Noïla Kasuna, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Burundi a fermé ses frontières terrestres avec le Rwanda voisin pour une durée indéterminée. L'annonce a été faite hier jeudi par le ministre burundais de l'Intérieur à cause du mauvais voisinage de Paul Kagame qui héberge selon lui tous les ennemis du pays. Kigali regrette la décision unilatérale du Burundi de fermer leurs frontières. Et puis le président sénégalais Macky Sall est en visite d'État à Nouakchott, capitale de la Mauritanie depuis hier jeudi. Une rencontre entre les deux chefs d'État est attendu ce vendredi à quelques mois des prochaines élections présidentielles dans leurs pays respectifs. L'occasion aussi pour les deux chefs d'État d'échanger autour des projets communs.
L'invité.
L'invité de ce journal est le chef de secteur de Sakina Division Nord Maniema. Edgar Lunga s'exprime sur l'état de délabrement très avancé de la centrale hydroélectrique de Belia. Il s'entretient à Kindu avec Florence Kizalunga.
Monsieur Edgar Lunga Kikwaya, bonjour.
Bonjour madame.
Nous sommes à Punia, plus précisément au nord de la province du Maniema, où votre société, la Sakima, a la gestion de la centrale hydroélectrique de Belia. Comment fonctionne cette centrale et depuis quand qu'elle existe?
La centrale existe depuis 1956. Elle fonctionne avec deux turbines, dont l'une est en arrêt à cause d'une panne. Et il est bon de souligner que la centrale est vétuste et elle nécessite une réhabilitation dans tous ses compartiments. J'attends par là le réseau hydraulique, la salle des machines, le transport du courant, c'est-à-dire la ligne haute tension, ainsi que le réseau de distribution. Tout ça est à revoir parce que c'est après 60 ans d'existence, et il faut nécessairement qu'on change tout. Les transformateurs également sont déjà vétustes.
Cette centrale hydroélectrique a quelle capacité de distribution du courant électrique au ménage de Punia?
Et nous avons en fait trois FEDER, s'il faut le dire. Il y a le FEDER Belia Chamaka et il y a le FEDER Belia Solia. Le même FEDER va jusqu'à Punia et enfin l'auxiliaire. Donc nous distribuons le courant sur ces accès-là où nous avons seulement la population qui en bénéficie.
Ces courants que vous distribuez à la communauté, c'est de manière régulière ou vous avez les systèmes de délestage?
Disons le courant de Punia, je crois que c'est le meilleur courant de la province ou même de notre pays. Pourquoi? Parce que nous donnons du courant 24 heures sur 24, sauf s'il y a une panne sur la ligne haute tension. Mais les machines tournent 24 heures sur 24 et servent, n'est-ce pas, uniquement la population de Punia, car nos mines ne sont pas en activité industrielle pour le moment.
Je crois que pour bénéficier de ces courants, il faut être abonné. Et une fois abonné, ces derniers payent combien le mois?
Nous donnons le courant à la population de Punia. Donc, pour différencier les gens qui ont du courant par rapport à ceux-là qui n'en ont pas, nous faisons payer une petite somme de 2,3 dollars, si je ne m'abuse, donc l'équivalent de 6 000 francs par mois et par ménage. Donc c'est ridicule. Vous trouvez que nulle part au monde, le courant ne peut pas coûter 6 000 francs le mois.
Mais selon là, je comprends qu'avec cette facture de 6 000 francs congolais, cela constitue un handicap pour la société?
Oui, c'est un grand handicap pour la société qui n'arrive plus à faire la simple maintenance. Imaginez un fût d'huile pour transformateur, c'est-à-dire l'huile isovoltine, mais coûte 1 500 dollars, prix d'achat, non compris le transport depuis Kinshasa jusqu'ici ou depuis Goma jusqu'à Punia. Donc avec ça, un fût ne peut alimenter qu'un seul transformateur. Imaginez, j'en ai 10. Il faut donc 10 fûts qui doivent coûter plus de 15 000 dollars si je tiens à renouveler les huiles au niveau des transformateurs.
Alors, pour que cette centrale constitue un investissement pour la société Sakima, qu'est-ce qu'il faudra faire?
Il faut chercher des investisseurs qui ont des grands moyens, pas des petits acheteurs de cassiterites qui viennent ici à Punia et qui ne nous aident pas à réhabiliter la centrale. Si ce n'est pas des investisseurs privés qui ont des grands moyens, il faut recourir au gouvernement congolais. C'est l'unique solution. solution, madame, parce que ça coûte cher une centrale, maintenir une centrale qui date de 1956. Je vous ai dit au départ que c'était une centrale vétuste, et donc il faut de gros moyens, et nous lançons un cri auprès des gouvernants de notre pays de nous voler au secours.
Si on ne réhabilite pas cette centrale à temps, qu'est-ce qui pourra arriver?
Et il faut s'attendre au pire. Parce que si je vous dis que j'arrête déjà une machine, il pourrait arriver que j'arrête la deuxième machine si je n'ai pas le matériel nécessaire, si je n'arrive pas à améliorer la qualité du courant. Et je vous dis qu'il faut, par exemple, sauver les lignes haute tension. Ce sont des fils qui datent de longtemps. Il faut refaire toute la ligne haute tension. Il faut refaire la distribution au niveau de la ville, dans les quartiers, pour que les gens trouvent vraiment un courant qui résiste même pendant la pluie.
Monsieur Edgar Lunga Kikwaya, je vous remercie.
Je vous remercie, madame.
Edgar Lunga Kikwaya, chef de secteur de Sakima, division Nord-Maniema, était notre invité dans un entretien avec Florence Kizalunga. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté.